Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. De violents affrontements ont éclaté entre étudiants et forces de sécurité dans une grande université de Téhéran. Des violences plus de 2 semaines après le début des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini. Le bilan de l'attentat de Kaboul vendredi dernier est revu à la hausse. Au moins 53 personnes ont été tuées. L'un des hauts dirigeants du mouvement terroriste Shebab a été abattu. C'est ce qu'annonce le gouvernement somalien. Regarde votre journal sur la maladie d'Alzheimer avec une femme qui a accompagné son mari qui souffrait de cette maladie. Jacqueline Santarelli est bénévole au sein de l'association France Alzheimer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle sera l'une de nos invitées. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 s'est ouverte ce lundi avec des vaccins adaptés aux derniers variants. Cela alors que la France est touchée par la 8e vague de l'épidémie. Octobre rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Un camion ira dès ce mardi à la rencontre des franciliennes pour pratiquer des dépistages. Parmi les personnes présentes, Cécilia Olson, qui a survécu à un cancer du sein. Nous l'écouterons. La contestation perdure en Iran depuis la mort le 16 septembre dernier de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté. Des forces de sécurité iraniennes ont affronté dimanche soir les étudiants de l'une des principales universités de Téhéran. La répression des manifestations a fait près d'une centaine de morts en 2 semaines en Iran. Le bilan s'est alourdi en Afghanistan après l'attentat suicide commis vendredi dans un centre de formation pour étudiants à Kaboul. Au moins 53 personnes ont été tuées, 83 blessées. C'est ce qu'indique la mission d'assistance des Nations Unies dans le pays. Et elle précise que les principales victimes sont des filles et des jeunes femmes. 2 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens. C'est arrivé près du camp de réfugiés de Al-Jalazoun. Il est situé près de Ramallah dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'un des plus hauts dirigeants du mouvement terroriste Shebab a été tué, une annonce du gouvernement somalien. Abdoulaye Yar a été la cible d'une frappe de drone lancée samedi, notamment par l'armée somalienne. Une frappe près de la ville côtière de Haramka, dans le sud du pays. La Somalie, où au moins 9 personnes ont été tuées, dont des fonctionnaires locaux et 10 autres blessés dans 2 attaques suicides revendiquées par les Shebab. Cela s'est passé dans le centre du pays. Bientôt un visa électronique pour les étrangers qui souhaitent se rendre en Algérie, une annonce du Premier ministre en marge du 21e Salon international du tourisme et des voyages à Alger. Objectif, encourager le secteur du tourisme. Elle touche 1 200 000 personnes en France, sans compter leurs proches. Regard sur la maladie d'Alzheimer depuis plus de 30 ans. L'association France Alzheimer lutte contre cette maladie neurodégénérative. Le témoignage d'une aidante, Jacqueline Santarelli, a perdu son mari qui souffrait de cette maladie. Aujourd'hui, elle est bénévole au sein de l'association France Alzheimer en Provence Alpes-Côte d'Azur, entretien.
Mon mari a déclaré la maladie d'Alzheimer à 50 ans. Et petit à petit, donc, je suis devenue son aidante. Je l'ai aidée à chaque fois qu'il en avait besoin. Quoi. Alors, au départ, pour la prise de rendez-vous à droite à gauche. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, bien dans tous les actes de la vie quotidienne.
Quels ont été les premiers signes, les premiers symptômes?
Ça a été un peu particulier parce que lui étant très jeune, quoi, et à l'époque, il n'y avait pas encore ces avancées qu'il y a eu sur la maladie d'Alzheimer, ils avaient détecté une dépression, quoi. Bah, il oubliait des rendez-vous, il oubliait des petites choses et puis, petit à petit, il n'arrivait plus à travailler, quoi. Il mélangeait tous les papiers, il n'y arrivait plus, quoi. Donc, il a été soigné pendant 4 ans pour dépression. Au départ, il avait fait un IRM qui montrait très, très peu de signes de maladie d'Alzheimer. Il avait passé des tests de mémoire et tout allait plutôt bien. Et au bout de 4 ans, son état évoluait, il n'allait jamais mieux, quoi. On a décidé d'aller consulter un neurologue qui lui a fait faire une scintigraphie. Et c'est à la scintigraphie que le diagnostic a été posé.
Cela consiste en quoi, une scintigraphie?
C'est un examen du cerveau très poussé, plus précis qu'un IRM. Et là, ils ont détecté déjà à l'époque... Donc, il avait 54 ans, hein, puisqu'il a fait sa scintigraphie à 54 ans. Ils ont détecté qu'il y avait des dépôts sur les cellules, sur les neurones, quoi. Et le neurologue a diagnostiqué, alors pas vraiment la maladie d'Alzheimer, mais une maladie apparentée. Et au fur et à mesure, ça a été déclaré Alzheimer, quoi. Hein. Voilà. Alors au départ, c'est pas grand-chose, hein, c'est des petits oublis, et petit à petit, c'est pour conduire, manque d'attention, manque de concentration, et jusqu'à après. Ne plus savoir manger seul, l'incontinence, ne plus arriver à marcher, voilà quoi. Et donc, forcément, plus ça va et plus on aide le malade, quoi.
Et comment a-t-il été pris en charge médicalement lorsque le diagnostic a été posé ?
Alors, médicalement, et vu son jeune âge, le neurologue l'a dirigé vers le centre mémoire, centre de recherche et de mémoire de Nice. Et il a pu bénéficier de protocoles thérapeutiques. Il est rentré dans deux protocoles thérapeutiques et il a testé des nouveaux médicaments, sachant que aujourd'hui, on n'a aucun médicament pour la maladie d'Alzheimer, hein, qui soigne et même pas qui retarde un peu la maladie. Donc chaque fois, il essaye de nouveaux médicaments et voilà, il pouvait rentrer dans deux protocoles de soins. Donc il a testé deux médicaments. Et après, c'est toujours pareil dans ces protocoles. Vous prenez pendant un certain temps et ensuite, soit ça continue, soit ça s'arrête parce que le médicament n'est pas efficace, quoi. Et dans les deux cas, le protocole s'est arrêté, quoi.
Et combien de temps a-t-il vécu avec cette maladie à partir de la pose du diagnostic ?
À partir de la pose du diagnostic, 12 ans.
Et vous avez tenu à ce qu'il reste chez lui ? C'est-à-dire chez
Alors,
vous.
Oui, voilà, moi ça a été mon choix. J'avais envie de l'accompagner le plus longtemps possible dans sa maison. Il faut pouvoir le faire, hein, parce que il faut que l'environnement soit adapté à pouvoir garder un malade comme ça à la maison. Nous, on habitait dans une maison à deux étages. Au bout d'un moment, il n'arrivait plus à monter dans la chambre parce qu'il y avait les escaliers. Il n'arrivait plus à monter les escaliers. Donc, j'ai aménagé le bas de notre maison pour qu'il puisse dormir en bas. On a installé un lit médicalisé. Donc j'avais le lit médicalisé, le fauteuil roulant, le fauteuil coque pour qu'il soit bien installé pour se reposer. J'avais un verticalisateur parce que il était très très raide. Alors ça, c'est pas tous les malades d'Alzheimer, hein, mais bon, lui, il a développé parallèlement à sa maladie d'Alzheimer une raideur. Les symptômes de Parkinson, raide. Et donc, c'était un bloc, quoi. Il n'arrivait plus à plier les genoux, c'était très compliqué, quoi. Et donc, moi, je voulais le garder à la maison, enfin, tant que je pouvais, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, non sans mal. Je me suis adaptée, j'ai trouvé des solutions pour à chaque fois, pour pouvoir avancer avec l'évolution.
Et à la fin de sa vie, il ne pouvait plus communiquer, mais vous ressentiez chez lui une forme d'apaisement, le fait d'être chez lui avec vous l'apaisait ?
Oui, 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 je l'ai toujours regardé chez moi parce qu'il me semblait qu'il était apaisé, qu'il était bien dans sa maison, même s'il ne communiquait plus, mais je le sentais détendu. Et donc, juste le fait de le sentir détendu, puis on communiquait par le toucher. Je sentais qu'il était apaisé et que je pouvais continuer à le garder. Et donc, je l'ai gardé jusqu'à la fin. Et voilà. Et puis, il a eu une infection pulmonaire. Il est décédé d'un emphysème des poumons.
Et c'est important ce que vous dites, hein. Il y avait un contact malgré tout. Entre vous.
Oui, 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 oui. Il y a toujours eu un contact, le toucher, je lui caressais les mains, je le prenais par la main, quoi. Enfin, j'avais l'impression, parce que comme il ne parlait plus, j'avais l'impression quand même que ça lui faisait du bien, quoi. Et j'ai toujours été présente, quoi. On va dire que j'ai mis entre parenthèses ma vie, mais par choix. J'étais contente de le faire, quoi.
Vous êtes contente de l'avoir fait aujourd'hui?
Je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Ah ben, c'est un gros, gros apaisement pour moi parce que il me semble que, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu du mieux possible. Et oui, j'ai réussi à le garder à la maison jusqu'à la fin. Et ça, c'est vrai que c'était important pour moi et peut-être pour lui aussi, hein, parce que je sais que dans le placement, c'est compliqué, quoi, pour les deux. Hein.
Une personne qui vous écoute, dont un proche est atteint de cette maladie, quel type de conseil vous pouvez lui donner? Est-ce qu'il est possible de donner des conseils?
Il est possible de donner des conseils généraux, on va dire, mais après, c'est vrai que comme chaque patient est différent et chaque aidant est différent, moi, le conseil que je donne, c'est d'être le plus en accord avec soi-même, de se préserver, de ne pas subir une situation trop difficile, parce que ça retentit sur la santé de l'aidant. Ce n'est pas non plus le but. Le but, c'est de faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, le plus longtemps possible. Et quand on ne peut plus, il faut s'enlever la culpabilité de dire « j'ai pas réussi ». Je suis allée jusque là où je pouvais aller et c'est déjà énorme quoi, de pouvoir faire du mieux possible. Quoi. Mais c'est vrai que comme chaque malade est différent, on peut pas donner des conseils vraiment très ciblés, quoi.
Jacqueline Santarelli, bénévole au sein de l'association France Alzheimer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 s'est ouverte ce lundi, cela alors que la France est touchée par la 8e vague de l'épidémie. Cette campagne repose sur les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderna, spécialement conçus pour Omicron et ses variants. La Haute Autorité de Santé conseille d'administrer les doses de rappel des nouveaux vaccins en priorité aux personnes fragiles et aux personnes avec qui elles sont en contact. Octobre rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. À cette occasion, un camion ira à la rencontre des franciliennes pour pratiquer des dépistages à partir de ce mardi. Parmi les personnes présentes, Cécilia Olson, qui a survécu à un cancer du sein.
J'avais fait un test de dépistage, mais très tardive. Et d'ailleurs, dans un endroit où j'ai même tendance à douter un peu de résultats parce que je suis sortie avec des images qui étaient bonnes. Mais quelques temps après, j'ai effectivement vu mon sein commencer à changer. Et là, j'ai vraiment manqué de sens puisque j'ai trop tardé parce que je me suis dit, ça ne peut pas arriver à moi, ça ne peut pas être ça parce que je travaille quand même dans une entreprise où on saute de vie tous les jours avec nos technologies. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas m'arriver. Et finalement, j'ai tardé et j'ai fini par faire une palpation moi-même et j'étais prise en charge le lendemain. Voilà. Et donc, j'avais un cancer du sein invasive, lobulaire, troisième niveau avec ça avait commencé à partir un peu dans, à se propager un peu. Voilà. Donc, c'était pris in extremis. Voilà.
Et comment avez-vous été prise en charge?
Alors, j'étais prise en charge directement. On fait bien entendu confiance aux soignants, aux professionnels de santé autour de nous. Je me rends compte qu'on m'a pas forcément donné un choix et j'aurais voulu avoir le choix pour choisir un autre parcours parce que c'est un parcours de combattant. Je sais qu'il y a des sites qui font tout en une journée et on peut absolument tout faire sous un même toit. Presque tout le parcours d'un cancer de sein, alors que moi, j'ai été baladée entre beaucoup de sites. J'ai commencé à calculer tout ça parce que j'ai tenu un journal intime et j'ai sorti des statistiques et j'ai eu plus de 300 rendez-vous. J'ai voyagé plus de 3000 kilomètres. J'ai été entre 7, 8 sites différents pour voir des experts ou des technologies toujours différents. Et donc, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour communiquer avec les femmes, pour leur dire qu'elles ont des choix, qu'elles peuvent anticiper, qu'il ne faut pas attendre, qu'il y a des moyens aujourd'hui qui sont vraiment faits pour les femmes, de la technologie dessinée pour des femmes, des parcours qui sont faits pour elles. Et je sais que la prise en charge de la femme peut être améliorée, mais de façon vraiment, vraiment marquante, et je me bats pour ça. Et c'est pour ça que je vais à l'encontre des femmes, pour leur ouvrir les yeux et leur dire qu'il y a un choix. On sait que la prévention, ça ne fonctionne pas avec des brochures ou des statistiques parce que vous allez entendre de beaucoup de statistiques au mois d'octobre. Mais c'est pas ça qui parle aux femmes. Ce qui parle aux femmes, c'est de parler entre femmes. On s'échange une expérience avec des mots qu'elles comprennent, avec des mots qui soient peut-être culturellement sensible à sa personne ou à, par rapport à ses traditions, sa famille, un héritage peut-être. Donc c'est là qu'on agit aujourd'hui, c'est évidemment apporter une histoire, raconter une histoire avec des mots simples, dans un langage, des choses qui parlent aux femmes. On sait que statistiques et des brochures, ça ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'on va à l'encontre des femmes. Et c'est pour ça que je monte dans ce camion pour aller à l'encontre des femmes, pour leur enlever toutes ces craintes et de les féliciter déjà de venir et d'avoir pris rendez-vous pour sa maman. Et celles qui hésitent encore, je suis là pour leur dire qu'il ne faut pas hésiter une seconde parce que rien qu'en deux jours, hésiter deux jours, ça peut vraiment changer la gravité de son cancer si jamais on trouve quelque chose.
Cécilia Olson au micro de Loïc Barrière. Le camion Octobre Rose s'installe place de la République ce mardi jusqu'à vendredi avant de sillonner l'Île-de-France. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Jean-Marc Governatori, coprésident de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.